Ça tombe bien puisque aujourd'hui je vais vous parler d'un jeune qui a écrit un psaume. Et ce jeune a écrit le psaume le plus long de la Bible. Et justement, pour revenir à ce livre des psaumes, comme vous le savez tous, ce livre est extraordinaire. Parce que ce livre nous révèle des enseignements spirituels importants pour notre vie. Ce livre des psaumes, qui est aussi un recueil de chants, de prières, de louanges, exprime ce que les auteurs ont pu expérimenter et recevoir de la part de Dieu. Ce livre des psaumes est rempli d'invitations, d'exhortations et de conseils pour les croyants de l'Ancien Testament, mais c'est aussi un écrit prophétique sur la personne de Jésus-Christ et le nouveau peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Ce psaume sans tarder est le psaume 119. Il est le psaume le plus long de la Bible, de tout le livre des psaumes, des 150 psaumes, et aussi le chapitre le plus long. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le lire, sinon ça va prendre tout le temps. Mais je vais en utiliser des extraits pour vous encourager, pour creuser ensemble et voir ce que ce jeune homme veut nous dire à travers ce psaume. L'étude du psaume 119 est très intéressante parce qu'elle nous révèle les merveilleuses richesses de la parole de Dieu, qui en est le thème central, évidemment. Son auteur n'avait à sa disposition qu'une petite partie de la Bible. Par rapport à ce que nous avons, nous, aujourd'hui, nous avons toute la Bible, c'est-à-dire les 66 livres. Et cette parole de Dieu avait une très grande place dans le cœur de ce jeune homme. Ce jeune qui s'est appliqué à en détailler toutes les facettes et à montrer tout ce qu'elle avait apporté pour sa vie, pour le temps qu'il a passé avec Dieu dans le présent et l'espérance dont elle nourrissait son cœur. En ce qui concerne la date de rédaction de ce psaume 119, je peux dire qu'il n'y a aucun indice qui nous permet de fixer une date, même approximative. Quoique, pour la rédaction de ce psaume, on estime en général qu'elle est assez tardive. Vous savez, le livre des psaumes n'a pas été écrit à un moment donné, sur une période donnée, mais s'est étalé sur plusieurs périodes, et nous pouvons savoir que David avait écrit des psaumes, que Asaph, la famille des musiciens, ont écrit des psaumes, que Moïse a écrit des psaumes, qu'il y en a aussi une cinquantaine de psaumes qui sont anonymes, dont on ne connaît pas les auteurs. Pourquoi je dis que la date de rédaction de ce psaume est tardive? Parce que le jeune homme, dans ce psaume, il insiste sur la célébration de la loi de l'Éternel. Et au moment où il l'a composé, ça correspondait à un moment critique de l'histoire du peuple d'Israël. Et selon certains spécialistes, il s'agit sans doute de la période après le retour du peuple d'Israël de la captivité à Babylone. Vous pouvez lire ça dans Néhémie 4, 13 ou Esdras 4. Le psaume 119, comme je le disais, est très long, mais si nous voulons le comprendre, c'est plus facile, c'est très facile. C'est un psaume qui a été divisé en 22 strophes qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et chaque section est composée de 8 versets. Et vous savez, dans la tradition juive, on peut savoir que certains versets de ce psaume sont récités. En ce moment, je crois que nous fêtons la Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Et à l'occasion de cette fête, avant de souffler dans le chauffard, ce n'est pas un chauffard routier, mais c'est un espèce de corne de bélier. Quand on annonce, avant de souffler, on cite notamment les versets 66, 108, 122, 160 ou 162. Pour juste dire à combien ce psaume a sa grande place dans la liturgie juive. Donc si la méditation des Saintes Écritures inspirées de Dieu ont apporté au jeune homme un tel bonheur, à combien plus forte raison pourront-elles nous enrichir? Comme le dit l'apôtre Paul à un autre jeune, celui-là il s'appelle Timothée. Il lui dit, Timothée, il faut savoir que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, quel qu'il soit, jeune ou vieux, jeune ou âgé, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En parcourant ce psaume, nous découvrons que le psalmiste fait allusion à sa personne et à sa situation. Contrairement à ce qu'on pourrait supposer, il était sans doute un jeune homme, comme je vous disais, ou du moins un homme jeune. En effet, dès le début de son livre, de ce psaume, il fait allusion à sa jeunesse. Verset 9, il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Et aussitôt, il s'implique lui-même, il dit encore au verset 10 « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Un peu plus loin, il prouve l'action éducatrice de la parole de Dieu dans sa propre vie. En mesurant son intelligence et sa sagesse à celle de ses maîtres et de ses vieillards. Et vous savez, quand on est jeune, à cette époque-là, au Proche-Orient ancien, les jeunes, pour apprendre, ils s'approchent toujours des vieillards. Pourquoi des vieillards? Parce que les vieillards sont sages, de par leur expérience, de par leur âge, de par leur étude. Et un jeune, quand il arrive à célébrer sa bar mitzvah à l'âge de 12 ans, donc il commence à s'approcher des personnes âgées. Jésus l'avait fait quand une fois il était parti avec ses parents à Jérusalem. Il s'est attardé un peu au temple. Il parlait avec les vieillards et parfois, quand on est jeune, on aime bien impressionner, on aime bien chercher. Et l'impression vient peut-être de l'interlocuteur. Et il dit, le jeune homme dans ce psaume, il dit « Grâce à ta parole, je suis quand même plus fort que les vieillards, parce que ta parole m'instruit, m'éduque, m'enseigne et me donne de l'intelligence, sans même que je passe par ces personnes, ces intermédiaires, uniquement en lisant ta parole. » L'attachement de l'auteur à la loi de Dieu provoque cependant des persécutions de la part des hommes puissants. Au verset 23, nous lisons « Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. » Et au verset 161, il dit « Des princes me persécutent sans cause. » Et vous savez, il était jeune, il aurait pu se distraire comme tous les jeunes, perdre son temps, ou dire « En tout cas, il me reste encore beaucoup de jours à vivre, donc... je profite de ma jeunesse. » Non, il est attaché à Dieu, tout en sachant que son attachement à Dieu allait provoquer la colère des autres. Et vous savez, c'est souvent ça. Les autres n'aiment pas, en tout cas ces jeunes qui s'approchent de Dieu, parce qu'ils marchent dans le droit chemin. Et c'est comme des arbres plantés près du courant d'eau. Et ils donnent des fruits à leur saison. Et donc... ce jeune est confronté à cette opposition de la part des gens de son époque. Sa vie était continuellement exposée à l'outrage. Il était accablé de railleries. On l'accuse de mensonges. On lui tend des pièges. On le guette pour le faire périr. C'était un long sacrifice. Mais plus on le persécutait, plus on le dérangeait, plus il s'accrochait à Dieu. Ces humiliations lui étaient salutaires car elles le ramenaient vers Dieu. Elles lui font davantage aimer sa parole. Et dans ce psaume, moi, en l'étudiant, je peux dire que ce psaume nous révèle trois choses. D'abord, le jeune homme nous parle de la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'est la loi de Dieu ? Sous plusieurs facettes. Ensuite, il nous montre comment aimer la loi de Dieu. D'accord, on l'a vu, cette loi. Et maintenant, le jeune homme a décidé de l'aimer. Et en troisième point, pourquoi il a décidé de l'aimer ? C'est-à-dire, cette loi provoque des effets positifs dans sa vie de foi. D'abord, en parlant de la loi de Dieu, ou la parole de Dieu. En étudiant le psaume, nous distinguons que l'auteur a utilisé 7 définitions au total. Il parlait de la loi, des préceptes, des commandements, des sentences, des statuts, de la parole. Déjà, au premier verset, il dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur vie, dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Il commence par parler de la loi de l'Éternel. La loi, comme vous le savez, vient du mot « contrat » et la loi désigne la règle exprimant la volonté de Dieu. Dans la loi, nous découvrons la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Et vous savez, nous désignons les 5 livres, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament comme étant la Torah. Et la Torah représente l'ensemble des instructions que Dieu a données à son peuple. Et dans le livre de l'Exode, nous découvrons exactement ce que Dieu a écrit de son doigt sur les tablettes de pierre que Moïse avait préparées d'avance pour monter au mont Sinaï. Et là, nous découvrons dans ce livre de l'Exode ce que Dieu veut pour son peuple. Et évidemment, après, Moïse a reçu aussi des révélations, il était inspiré par l'Esprit pour détailler cette loi dans le livre qu'on appelle après le Deutéronome, qui veut dire en grec Deutéronomos, ça veut dire la deuxième loi. C'est un livre qui explique la première loi. Parce que Dieu ne dit pas tout, comme peut-être certains musulmans le croient, dans le Coran en tout cas. Dieu, il utilise l'homme, il parle à l'homme, il l'inspire, et l'homme écrit sous l'inspiration de Dieu. Et au verset 2, le psalmiste dit « Heureux ceux qui gardent tes préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Là, il emploie le terme « précepte ». Ce terme est le premier d'une série de termes qui sont utilisés comme synonymes les uns les autres pour désigner le contenu de la loi, ce que je vous disais tout à l'heure. Et ce mot désigne aussi le fait de prendre. Un précepte est une formule qui exprime un enseignement, une règle. Au verset 10, un peu plus loin, il dit « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Et là, il utilise un autre terme, « commandement ». Dans ce terme « commandement », il y a la pensée de donner un ordre. Quand Dieu nous donne des commandements, c'est un ordre. On doit en obéir. Le commandement de Dieu donne une règle de conduite. Dans le commandement, il y a aussi l'expression d'une autorité. Ça vient de Dieu. Les auteurs de la Bible ne disent pas « Dieu a dit ça, mais moi je pense » ou « il me semble que » Non, Dieu a dit. Dieu nous a demandé. Et nous devons suivre ce que Dieu nous a donné comme direction précise. Au verset 27, il dit encore « Fais-moi comprendre la parole de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. » Là, il parle d'ordonnance. Ce terme contient la pensée d'une mise en ordre, d'une composition ou disposition d'ensemble. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, qu'est-ce qu'il va vous donner ? Une ordonnance, une prescription médicale dans laquelle il vous donne tous les médicaments qu'il faut pour que vous les preniez avec soin, évidemment, parce qu'une ordonnance, Si vous prenez tous les médicaments, vous les prenez en même temps, vous risquez de mourir. Donc il faut suivre à la lettre les ordonnances, l'ordonnance du médecin. Pareil pour nous. Si nous voulons connaître Dieu, nous devons suivre à la lettre les ordonnances de Dieu. Au verset 13, il dit « De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. » Et là, il emploie un autre terme. Il s'agit de sentence, qui en latin veut dire sentir. C'est la décision d'un juge, d'un arbitre. Vous savez, ça peut être aussi un arrêté, un jugement ou un verdict. On prononce la sentence qui veut dire on exécute la décision que Dieu avait prise. Et un peu plus loin, au verset 22, il dit « Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. » Statut qui désigne aussi un ensemble de textes qui règlent la situation d'une personne ou d'un groupe. Et à la fin, il revient à la parole, il dit, comme vous connaissez tous ce verset, 105, 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu que nous pouvons réussir. Et la parole de Dieu est l'objet unique de tout le poème. Le psalmiste exprime tout son attachement à celle qui est pour lui une lampe à ses pieds. Et après avoir désigné ces plusieurs facettes de la parole de Dieu, maintenant le psalmiste passe à la seconde étape, c'est-à-dire il décrit tout simplement comment il décrit son attachement à cette parole. Il dit « J'aime la loi de Dieu ». Dans plusieurs versets, ce jeune homme répète ou réitère son attachement profond à la parole de Dieu parce qu'elle est semblable à quelque chose d'indispensable à sa vie. Vous savez, si vous croisez dans votre vie des gens qui sont malades, qui ont un instrument médical attaché à leur corps, ils ne peuvent pas s'en séparer. Et s'ils s'en séparent, ils peuvent mourir. Et donc, nous, on peut dire qu'on est autonome. Et ces personnes-là ont besoin de cet instrument pour vivre. Et le psalmiste, pour lui, la parole de Dieu, c'est comme ce médicament ou ce traitement dont il ne pouvait pas s'en séparer. C'est-à-dire, s'il s'éloigne, il ne va pas mourir dans la rue comme ça, mais sa relation va être coupée avec Dieu. C'est comme le cordon ombilical d'un bébé qui est dans le ventre de sa mère. C'est quand il sortira du ventre de sa mère qu'on va le couper parce que ça y est, il va respirer, il va avoir du lait, etc. Mais le psalmiste, il dit, sans toi, je ne peux pas vivre. Au verset 97, il dit, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. C'est-à-dire, c'est un jeune qui médite tous les jours la parole de Dieu. Il passe un temps, il ne dit pas 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes, mais il pense à la parole de Dieu quand nous pensons le matin, quand nous nous levons, à prendre sa douche ou à prendre son petit-déj. C'est un réflexe qui lui revient assez souvent. Au verset 127, il dit « C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. » Il dit « J'aime ta parole comme de l'or et de l'or fin. » Moi, je ne porte pas sur moi de l'or, mais je sais qu'il y en a des femmes qui aiment l'or. Quand elles achètent un bijou, un collier ou un bracelet en or, elles l'admirent. Elles les mettent en valeur. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il faut le cacher parce que dans certaines situations, ça risque de provoquer des altercations ou des vols à l'arraché. Mais dans l'absolu, l'or a une grande valeur. Quand on achète de l'or, on n'achète pas pour le cacher. On l'achète pour l'admirer, pour l'aimer, pour le mettre en valeur. Et la parole de Dieu dans ce texte, ce jeune homme, il la compare à de l'or fin. ben pour lui, sans doute, il la met, vous savez, à l'époque, c'était des rouleaux, et donc il la mettait dans une jarre, sans doute, qu'il conservait dans un coin précieux de sa chambre. Aujourd'hui, nous n'avons pas de jarre ni de rouleau, nous avons même des Bibles numériques dans nos téléphones. Et c'est bien, je trouve que la Bible aujourd'hui est accessible à tous, même aux jeunes qui ont des téléphones. C'est vrai, ils peuvent dire qu'elle est lourde, j'ai pas de sac, moi je vais pas amener ça là dans la rue comme ça. Mais avec un téléphone, une tablette, ça marche. Il faut utiliser ses moyens. Et vous savez, à l'époque, ce jeune homme n'avait pas de tablette et il fallait qu'il revienne à la maison pour lire la parole de Dieu. Et pour nous, aujourd'hui, c'est plus facile. Le psalmiste délecte de cette parole, révélation parfaite de Dieu pour l'homme qui peut marcher dans une authentique relation avec lui. Il la savoure comme du miel. Elle est son plus grand trésor sur cette terre. Ses merveilles, ses richesses, sa beauté sont l'objet de son admiration. Et il se souvient de nombreux effets bénéfiques dans sa vie. Pourquoi cet attachement à cette parole ? Et c'est ce que nous allons découvrir après, pourquoi il est tellement attaché à cette parole de Dieu. Au verset 13, qu'est-ce qu'il fait ? Il montre qu'il l'apprend même par cœur. Il dit « De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. » Vous voyez, c'est un jeune, il apprend par cœur la parole de Dieu. Il est tellement attaché qu'il répète les versets. Et c'est important pour nous aujourd'hui d'apprendre cette parole par cœur, parce qu'elle nous transforme. C'est bien de la connaître, mais aussi de la présenter de la bonne manière à ceux qui ne la connaissent pas. Au verset 54, il dit « Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. » Qu'est-ce qu'il fait ? Il la chante. Il chante la parole de Dieu. Et j'imagine que ce psaume est chanté dans un air hébreu ou martiniquais ou africain ou européen. Sans doute, ces paroles, pour les retenir, on utilisait des instruments de musique et faire des chansons avec. Il y a des psaumes aussi, d'ailleurs, qu'on chante, comme le psaume 149, ou qu'on chante à l'église aussi. Donc, un jeune qui aime la parole de Dieu, qui la garde dans son cœur et qui la chante. Le psalmiste avait pris une ferme résolution, il dit, au verset 48, « Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. » Il dit avec affirmation qu'il veut méditer et que personne ne peut l'empêcher de le faire. Il avait aussi compris qu'il devait être enseigné par Dieu, qu'il avait besoin d'intelligence. Et c'est vrai que quand on est, on n'est pas tous avec une intelligence meilleure que celle qui nous a précédé. Notre intelligence est petite à la base, mais quand on s'approche de Dieu, Dieu nous aide et il la rend très large. Et il nous agrandit notre être intérieur. Il nous donne beaucoup de sagesse et de savoir. Et ce psalmiste, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il fait ? Il prie. Il prie Dieu, il dit « Enseigne-moi tes statuts, donne-moi l'intelligence pour que je la garde et je l'observe. » Et d'un autre côté, nous pouvons remarquer que ce jeune homme ressent avec d'autant plus de douleur et d'indignation l'abandon de la loi par ses concitoyens. Vous savez, quand ils étaient revenus de l'exil, certains n'étaient pas appliqués comme lui à suivre la parole de Dieu. Et ce jeune homme était il avait un peu mal au cœur. Il disait, mais mince, on était ensemble, tout un peuple uni. Là, Dieu nous a aidés à revenir. Et hélas, je vois d'autres jeunes, d'autres personnes qui ne s'appliquent pas à la parole de Dieu. Et il y en a même que ceux qui n'aimaient pas son attitude. Et au verset 69, il dit, les orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. « Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. » Il rappelle toujours à Dieu que son attachement à sa parole. Toutefois, le psalmiste, il faut le souligner, il était confronté à deux obstacles dès qu'il a décidé de pratiquer la parole de Dieu. D'abord, ses propres convoitises. Quand on est jeune, on a plein de convoitises, n'est-ce pas ? Et parce que nous sommes jeunes et nous sommes très curieux et nous découvrons des choses et on a aussi cette liberté de quitter les parents et de commencer à faire nos premiers pas dans la vie comme des grands. Le psalmiste dit au verset 11 « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Afin de ne pas pécher contre toi. Et au verset 36, il ajoute « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Ah, là, sans doute, il était tenté par l'argent. Au verset 37, il continue, il dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. » Il commence avec tout ce que la parole lui a apporté comme intelligence et sagesse, il commence à faire la part des choses. Et il revient souvent à la Bible, à Dieu. Et nous découvrons qu'il était confronté à des tentations de son propre cœur, l'amour du gain et la contemplation des choses vaines, qui l'attristent, car elles risquent de le détourner de Dieu. C'est pour cette raison qu'il lui demande de préserver. Et c'est vrai, hein, dans notre vie, en lien avec Dieu, nous sommes presque souvent tentés par des choses de ce monde qui nous détournent de la voie de Dieu. Et comme je disais aussi, le deuxième obstacle pour ce jeune, c'était les railleries de son entourage. Et pour répondre à ces gens, il dit « Seigneur, exauce mes prières, pour qu'ils puissent voir en moi que tu es vraiment, qu'ils puissent voir en toi que tu es vraiment le seul vrai Dieu qui répond à toutes les prières. » En versets 42 et 43, il dit « Je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité. » Et le psalmiste veut réellement indiquer que l'épreuve irréfutable des exaucements de nos prières devrait faire cesser les outrages des incroyants. Car notre foi repose sur la parole de Dieu, qui ne fait jamais défaut. Et en un mot, il veut dire tout simplement qu'il n'a pas honte de s'attacher à Dieu, ainsi qu'à sa parole. Et mon dernier point, troisième et dernier point, là, il explique clairement les effets positifs de cette parole dans sa vie. Parce qu'après avoir indiqué tout ça, il a quand même une bonne raison derrière la tête, ce garçon. Le psalmiste fait l'éloge des bienfaits de la loi de Dieu. C'est, comme je disais, comme un patient qui est tellement malade, qui a obtenu une guérison grâce à un médicament qu'un médecin lui a prescrit. Et il est tout content de parler de ce médicament, de dire « Vous savez, ce médicament vraiment m'a fait du bien ». Au verset 28, il dit « Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. » C'est-à-dire, ce jeune homme passe des moments de chagrin dans sa vie. Et sans doute, il pleurait la nuit. Et il était accablé par des choses mauvaises. Et il se tourne vers Dieu dans la prière. Dans les moments sombres de la vie, contre notre âme fond en larmes, le Dieu de toute consolation nous relève et nous fortifie pour que nous allions de l'avant. Il dit encore avec fierté, cette fois-ci, au verset 32, « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » C'est-à-dire, avant, ce garçon, il n'avait peut-être pas le cœur large. Il était peut-être égoïste, il voyait qu'à ses propres intérêts. Et voilà qu'en découvrant la bonté de Dieu, son amour, la fidélité de Dieu, il s'est dit, de mon côté, je dois faire aussi quelque chose. Je dois aussi donner le meilleur de moi-même. Je dois aussi aider les autres parce que je suis capable. Et il est tout content parce que son cœur est devenu large. Le psalmiste veut dire que ceux qui gardent les commandements de Dieu ont un cœur large et dépassent tout ce qu'ils peuvent imaginer. Large en quoi ? Large en amour, en sagesse, en intelligence large, dans le regard positif de l'autre. Le psalmiste ajoute au verset 104, il dit « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Ainsi, je hais toute voie de mensonge. » C'est-à-dire, il est devenu intelligent parce qu'il lit la parole de Dieu, il dit aussi la vérité. Comme quoi, c'est vrai que parce que quand on est jeune et qu'on n'aime pas se détacher de certaines choses de ce monde, on peut peut-être employer le mensonge. Et là, le jeune homme a compris que le mensonge a ses limites devant Dieu. Et que Dieu va lui donner l'intelligence pour qu'il s'en sorte et qu'il dise à chaque fois parole de vérité. Et au verset 5, juste après, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Sans elle, il ne peut pas voir. Je ne sais pas si vous avez peut-être vécu un moment à la maison où il y a eu coupure d'électricité, au moment où vous mangiez ou vous faisiez des choses sans entrer dans les détails. Mais soudainement, il n'y a plus d'électricité. Vous ne pouvez plus bouger. Surtout si vous étiez en train de couper de la viande ou autre chose. Pourquoi ? Or que vous aurez pu, si vous êtes vraiment... vous aurez pu continuer votre geste. Mais on ne peut pas. Parce qu'on ne voit rien. Et on risque de faire des dégâts. Donc on s'arrête. On ne fait rien. Jusqu'à... Il n'y a pas un briquet, il n'y a pas une bougie. Non. Ok. Jusqu'à ce que l'électricité revienne. Pareil. La parole de Dieu, sans elle, on ne peut rien faire. Je ne peux pas dire que... en s'éloignant de la parole de Dieu, on ne peut pas bouger, mais dans le sens plus large, c'est-à-dire, on est désorienté. On est incapable de marcher. Si, on peut marcher au marché, faire les courses, tout ça, mais marcher sur la voie, le chemin, on ne peut pas. Et cette parole qui est une lumière, quand elle est dans nos vies, elle nous éclaire et on sait clairement où est-ce qu'on va. Et en conclusion à mon message de ce matin, je peux dire que ce psaume nous encourage vivement à lire, à méditer la parole de Dieu et prendre plaisir de la mettre en pratique. Non seulement cela nous permettra de s'approcher de Dieu, pourquoi ? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ça c'est bien, vous le connaissez dans Romains 10, 17, mais c'est la clé de la réussite de chaque croyant qui veut aller loin avec Dieu. On ne peut pas dire que je suis croyant, que je crois en Dieu, sans même connaître sa parole. Vous savez, vous ne pouvez pas dire que je connais mon correspondant, je ne sais pas s'il y en a parmi vous ceux qui font de la correspondance aujourd'hui. Parce que c'est vrai que dans le passé, c'était de la correspondance manuscrite avec des cartes postales, et maintenant c'est un peu virtuel, donc avec des mails ou autres. Mais on ne peut pas dire que je connais mon correspondant. Moi, par exemple, je ne peux pas dire que je connais Nelson Mandela parce que je n'ai jamais fait de la correspondance avec lui. Et jusqu'au jour où nous pouvons faire la correspondance avec la personne, et là, on peut dire que je le connais. Parce qu'il m'envoie des lettres. Dieu nous envoie des lettres. Il nous écrit. Et tout était écrit. Et nous avons de quoi lire. Et par cette lecture, nous pouvons le connaître. Nous pouvons dire que je connais Dieu. Ah bon ? Ce n'est pas parce que je l'ai rencontré en Bloemenil ou autre, mais parce que j'ai lu sa parole. Sa parole m'a montré qui est Dieu. Et à ce moment-là, quand nous allons le rencontrer au ciel, on va dire comme Job l'a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Nous le verrons. Au ciel. Et vous savez, Dieu a réellement envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est lui-même la parole de Dieu. Jésus-Christ incarne cette parole parce qu'il est au commencement la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous connaissons sa parole, nous connaîtrons Dieu et nous vivrons auprès de Dieu. Que cette parole de Dieu incarnée en le Seigneur Jésus-Christ soit ancrée en nous tous. que nous puissions la méditer tout au long de notre vie, dans la foi. Et que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Amen.